Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. On vous en parlait tantôt. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet où on va en apprendre un peu plus sur l'histoire de Québec. Les événements qui vont nous être rapportés se sont bel et bien produits à Québec. Et pour les besoins de l'entrevue, moi et Audrey, on a travaillé extrêmement fort. On est allé se remémorer des trucs ou apprendre des trucs qu'on n'avait jamais vraiment entendu parler. Moi, j'avais assisté à une conférence de Webster, fait que j'avais déjà une bonne base là, sur ce que Webster va nous raconter. Mais bon Dieu, qu'à chaque fois que je retourne dans ces lectures-là, ça me fascine à quel point ça nous a jamais été rapporté à l'école, alors que c'est des sujets qui sont hyper importants. On va l'accueillir tout de suite. Son nom, c'est Ali Ndiaye, alias Webster, qui est un historien, qui est conférencier et c'est aussi un rapper. On parle du mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs. Salut Webster!
Hey, salut, ça va?
Ben oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment t'en es venu à t'intéresser à cette histoire-là, toi?
Ben, tu vois, moi, depuis que je suis tout jeune, je suis intéressé par l'histoire. Puis je te dirais, le début de l'adolescence, l'histoire noire m'intéressait beaucoup.
Ouais.
Puis tu sais, au début des années 90, là, on se rappelle le film de Malcolm X qui était sorti par Spike Lee. Puis tu sais, je lisais beaucoup à ce sujet sans savoir qu'il y avait une histoire noire à Québec puis au Québec. Donc, ce que je lisais, c'est Malcolm X, les Black Panthers, Rosa Parks, Martin Luther King,
ouais.
Mais toujours d'un point de vue américain. Puis, j'ai étudié en histoire à l'université et jamais qu'on m'a parlé d'une présence noire ici qui a presque 400 ans, tu sais. C'est en sortant de l'université que je suis tombé là-dessus. Puis, je me suis dit, mais attends un instant, faut en parler. Ça n'a pas de bon sens que je sois intéressé par l'histoire noire depuis longtemps et que j'ai même jamais connu cette présence noire ici. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça.
Écoute, quand j'avais assisté à une de tes conférences, moi, j'avais appris plein de choses. Puis, si je me trompe pas, tu vas être là pour me le rappeler, mais est-ce que c'est les parents de Malcolm X qui se sont rencontrés au Québec?
Oui, exact, à Montréal.
Hein?
Oui, c'est fou, ça. Il n'y a pas de Malcolm X sans le Québec puis Montréal.
Alors, tu vois, c'est des choses que je savais pas.
Pour donner une idée aux auditeurs, dans la période entre 1629 et 1834, c'est plus de 4185 esclaves au Québec jusqu'à l'abolition de l'esclavage là, en 1835, si on parle de cette portion-là. Puis on dit qu'il devait y avoir au moins 10 000 personnes en esclavage pour le Canada, dont justement une grande partie sur le territoire actuel du Québec. C'est des chiffres, moi, que je ne connaissais pas du tout, là. Puis Yann, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est pas des affaires qu'on nous apprend à l'école non plus.
Non, nous autres, on nous parlait de l'histoire des Premières Nations, comment les Blancs sont arrivés, comment les Blancs ont été aidés par les Premières Nations pour guérir certaines maladies et tout ça. Puis après ça, on en connaissait un peu plus sur les civilisations des Premières Nations, mais l'histoire de l'esclavage, ça, on dirait qu'ils ont fait abstraction de ça. Peut-être parce qu'on s'en veut aujourd'hui que ça se soit passé chez nous. On a toujours l'impression qu'aujourd'hui, avec l'éducation qu'on a, que jamais on aurait pu faire une affaire comme ça. Puis ce que je vois, c'est que Québec, c'est plus de 400 ans d'histoire, mais l'histoire de l'esclavage aussi, ça a commencé, là, tout ça, 400 ans, c'est 1628, Webster?
Oui, ben 1628, 1629. Et en fait, pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport au fait qu'on ne connaît pas cette histoire-là, il y a plusieurs éléments. Notamment, il n'y a pas eu beaucoup de gens en esclavage. Quand on parle de 4185, 10 000 ou même 15 000 personnes, ce n'est pas beaucoup comparé, admettons, aux États-Unis, aux Antilles ou au Brésil. Donc, ça a contribué à l'oubli. Mais il y a aussi le fait que nos historiens au 19e siècle, comme François-Xavier Garneau, ont nié l'esclavage ici. Garneau, quand il a fait sa grande histoire du Canada, il a commencé par nier ça. Puis ses contemporains lui ont reproché, tu sais. Puis, il y a le fait que notre proximité avec les États-Unis, où est-ce que tout est toujours plus gros, tout est toujours plus intense, ben, quand l'esclavage a disparu ici, ben, c'était facile de dire, écoutez, on n'a pas d'esclaves ici, regardez aux États-Unis, c'est l'esclavage, tu sais. Donc, tout ça fait qu'on a oublié ce 400 ans d'histoire-là. Comme tu l'as nommé, dès 1628, 1629, on a une présence africaine ici. Un jeune garçon qui allait recevoir le nom d'Olivier le Jeune. On s'entend que ce n'est pas son nom africain. C'est un jeune qui est né soit en Afrique de l'Ouest ou à Madagascar, qui est arrivé avec les frères Kirk lorsqu'ils ont pris Tadoussac en 1628 et Québec en 1629. Donc, et ce jeune homme a été vendu à un homme dans la colonie qui, lui, l'a donné à Guillaume Couillard. Et donc, ce jeune homme est resté ici, en Nouvelle-France, jusqu'à son décès en 1654. Et donc, dès les débuts de la colonie, on a une présence noire ici, et ce jeune homme arrive en tant que personne en esclavage, en tant qu'esclave.
Est-ce que Mathieu d'Acosta était perçu comme un esclave? Il était celui qui était l'interprète de Samuel de Champlain. Comment il était perçu, lui?
Mathieu d'Acosta, le mystère d'Acosta, si je peux dire, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations à son sujet, mais on sait que très probablement qu'il a accompagné Samuel de Champlain lors de sa première tentative de colonisation en Nouvelle-Écosse, ce qui allait devenir Port-Royal. Et ça, c'était en 1604. Il retourne en 1605 en Europe et il signe un contrat pour participer à la fondation de Québec en 1608. Donc, d'Acosta, le fait qu'il signe un contrat veut dire qu'il n'était pas en esclavage. Et il était bien payé pour ça. T'sais, il était payé mieux que les marins à bord, là. Il y avait l'équivalent du salaire de l'apothicaire, comme le pharmacien, si on veut, qui les accompagne. Donc, d'Acosta, il ne vient pas ici parce qu'il est emprisonné au Havre pour insolence. Tu vois, donc, il était supposé de venir, il signe un contrat. Finalement, ben, il peut pas honorer son contrat parce qu'il est en prison pour insolence. Donc, ce qui fait dire que il devait pas être en esclavage. Il était payé pour, puis il avait du caractère en plus parce que on l'emprisonne pour
Et
ça.
pourquoi on appelle ça le mystère d'Acosta?
Ben, parce que on ne sait pas. Il y a des informations qui manquent. C'est-à-dire que on sait qu'il aurait accompagné Champlain en 1604 vers Port-Royal, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il retourne en Europe. Mais on sait qu'en Europe, les Français puis les Hollandais vont se chicaner pour pouvoir le récupérer parce qu'ils travaillent avec les Hollandais à un moment donné. Ils les auraient accompagnés dans le golfe du Saint-Laurent. On sait qu'ils parlaient français, portugais, hollandais et Mi'kmaq, qui est une langue autochtone. Donc, il y a encore beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas à propos de cette personne-là.
Qu'est-ce qui distingue, ben, qui distinguait en fait les Noirs libres des esclaves?
Pas grand-chose. Souvent, c'est un bout de papier. Parce que c'est des gens qui parfois ont été en esclavage, à qui on a donné la liberté, des gens qui ont été à liberté, en liberté, qui ont été capturés, achetés, vendus. Donc, il n'y a pas grand-chose qui les distinguait. Et on le voit dans le nord des États-Unis, et on l'a vu en Nouvelle-Écosse, des personnes noires libres qui se faisaient enlever pour être vendu en esclavage, admettons dans les Antilles ou aux États-Unis. Tu sais, le film là, 12 Years a Slave, l'histoire de Solomon Northrop qui a été. On l'a attiré, on l'a saoulé, s'est réveillé dans une plantation dans le sud. Ben, c'est arrivé ici aussi, notamment en Nouvelle-Écosse, en Ontario aussi. Il y a des fois des chasseurs d'esclaves qui traversaient la frontière jusqu'au Canada pour essayer de capturer des gens.
Puis qui possède des esclaves à l'époque? C'est qui les gens qui achètent des esclaves?
Ici, c'est souvent les membres de l'élite, si on veut, parce que ce sont des produits, entre guillemets, là, on s'entend que ce n'est pas des produits, mais ce sont considérés comme des produits, comme
Des
des biens
biens.
meubles. Exact, ce sont des gens qu'on achète, qu'on vend, qu'on donne, qu'on lègue, qu'on loue, qu'on échange, et qui coûtent assez cher. C'est-à-dire qu'une personne autochtone en esclavage vaut en moyenne 400 livres. Une personne noire en esclavage vaut en moyenne entre 900 et 1000 livres. Et donc, 400 livres équivaudraient à un peu plus de 4 000 $ aujourd'hui, si je ne me trompe pas. En fait, là, les dernières vérifications que j'ai faites, c'était ça. 900 livres équivaut à environ entre 9 000 et 10 000 $ aujourd'hui. Donc, c'est l'élite marchande, commerciale, qui peut se les procurer. C'est l'élite militaire, politique et religieuse. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens en esclavage, mais on a beaucoup de nos toponymes qui sont liés à l'esclavage. Des noms de rues, des noms de municipalités, des noms de bâtiments, comme admettons, vous allez sur la terrasse du Frein, vous allez au château Frontenac. Frontenac avait une esclave autochtone. Vous voulez aller sur la rive sud de Montréal, à Longueuil. La famille Longueuil est une des familles qui en a eu le plus. La municipalité de Beauharnois, Rigaud, Vaudreuil, c'est des gouverneurs généraux qui ont eu des esclaves. Marguerite Duville, la place Duville, Marguerite Duville en a eu, la mère supérieure des Sœurs Grises. Et donc, puisque pendant longtemps, nos toponymes ont été influencés par les membres de l'élite, Eh bien, c'est les membres de l'élite qui pouvaient s'en procurer. Donc, il n'y a pas un endroit au Québec où est-ce qu'on passe pas sur une rue qui a eu un lien avec l'esclavage, du moins un nom qui était en lien avec l'esclavage.
C'est intéressant, ça, j'avais aucune idée. Ali, c'est vraiment une drôle de question, là. J'en parlais avec Yannick tantôt, mais moi, j'ai l'impression que j'ai été peu éduquée sur le sujet. Puis ça va être drôlement formulé, mais comment les Noirs sont devenus des esclaves? Comprends-tu ce que je veux dire? Si on revient à la base, là, j'ai de la misère à comprendre comment tout d'un coup on a décidé que, entre les humains que nous sommes, les Noirs vont être ceux qui vont nous servir.
C'est une. La réponse va être un peu longue,
C'est correct,
mais.
je suis intéressée.
OK. Bon. Ben, parce que l'esclavage a existé sur tous les continents et à toutes les époques. C'est-à-dire qu'il y a de l'esclavage encore aujourd'hui. Mais l'esclavage qu'on associe aux Noirs, qu'on appelle l'esclavage transatlantique ou l'esclavage racial, va prendre une forme particulière. Parce qu'admettons, tu prends l'esclavage à l'époque romaine. Ben, les gens ne sont pas en esclavage parce qu'ils sont noirs. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont en esclavage parce que ben, c'est un statut. On t'a battu à la guerre, tu es en esclavage, tu n'arrives pas à payer tes dettes, ben, on te vend en esclavage. Et quand les Portugais, dans les années 1400, vont commencer à explorer la côte ouest africaine, le pape Nicolas V va produire une bulle disant, écoutez, vous avez le droit de réduire en esclavage les non-chrétiens. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens que vous rencontrez, vous pourrez les réduire en esclavage. Et donc, les Portugais vont croiser, notamment au large du Sénégal, en 1443-44, des Africains qui vont ramener en esclavage au Portugal. Et donc, tranquillement, on va ramener des gens comme ça. Donc, l'esclavage transatlantique commence, mais de l'Afrique vers le Portugal. Donc, 1492, Christophe Colomb arrive dans les Amériques. Les Autochtones qu'il rencontre, il va les réduire en esclavage, il va les envoyer en Espagne pour être réduits en esclavage. Et donc, quand les Européens amorcent la colonisation des Amériques, ils vont commencer par réduire en esclavage les Autochtones. Pas parce qu'ils sont bruns ou non blancs, mais parce qu'ils ne sont pas chrétiens, qui appartiennent à des civilisations différentes, des modes de vie, des modes de production différents. Mais les Européens amènent des maladies auxquelles les Autochtones n'avaient pas été exposés, ce qu'on appelle le choc bactériologique ou microbiologique. Et 95% de la population autochtone est décimée. 95% de la population des Amériques est décimée par les maladies, les massacres, les génocides, l'esclavage. Et au même moment, dans les années 1500, tu as l'évêque du Chiapas au Mexique qui s'appelle Bartolomé de Las Casas qui dit, il veut prendre le côté des Autochtones. Il dit, ces gens pourraient avoir une âme, il ne faut pas les réduire en esclavage. Donc, à l'époque, les gens disent, OK, mais qui va cultiver nos terres? Et Las Casas va dire, ben, les Africains, on sait qu'ils n'ont pas d'âme. Et donc, on avait déjà amorcé le transport d'Africains vers les Amériques tranquillement. Et ça, à partir de ce moment-là, ça va prendre un boost. Où est-ce qu'on va de l'Europe descendre en Afrique, on va amener des produits comme des armes, des outils, des étoffes, de l'alcool qu'on va échanger, qu'on va donner, qu'on va vendre, on va enlever, acheter des Africains, les échanger, qu'on va amener vers les Amériques pour être réduits en esclavage, qui vont produire, qui vont cultiver des produits, du sucre, du coton, du tabac, du café, de l'indigo, du riz, vont être dans les mines, extraire de l'or, de l'argent, qu'on va envoyer tout ça en Europe pour être transformé. Ah, ce qu'on appelle, ce qu'on voit à l'école, ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Et donc, il y a cette proximité géographique-là, et il y a bien sûr cette question économique-là qui est très importante. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va retrouver beaucoup d'Africains en esclavage, 12,5 millions d'Africains. Et ensuite, c'est comme ça que vont naître les théories raciales. Où est-ce que là, parce que la notion de race est nouvelle dans l'histoire de l'humanité, elle ne date que des années 1700. Avant les années 1700, les gens ont des biais, des préjugés, mais ce n'est pas érigé comme un système. Ça va accompagner l'esclavage transatlantique et va laisser une empreinte avec laquelle on vit encore aujourd'hui.
On sait qu'en Nouvelle, voyons, Nouvelle-France, bon, Nouvelle-France, on sait qu'en Nouvelle-France, on pratiquait l'esclavage. Est-ce que les Autochtones ont participé aussi à l'esclavage ou il y a seulement des Autochtones qui sont devenus des esclaves?
Oui, ben, ils ont participé aussi dans le sens où c'était des réseaux. C'est-à-dire que l'esclavage existait chez les personnes autochtones avant la présence européenne, comme que l'esclavage existait sur tous les continents, mais avec des particularités différentes. Chez les Autochtones, les Premières Nations de l'Amérique du Nord, souvent l'esclavage était lié à la guerre et au repeuplement de villages. C'est-à-dire qu'on s'en va à la guerre, puis les gens qu'on prend en esclavage, on va les intégrer au village pour pouvoir repeupler. Et c'est pas un statut qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire qu'une personne est en esclavage, mais ses enfants vont faire partie du village, vont avoir un statut comme tous les autres. Quand les Français vont s'installer en Nouvelle-France, ils sont loin du réseau d'approvisionnement en Africains ou Afro-descendants qu'on veut réduire en esclavage. Hein. Les bateaux négriers ne se rendent pas jusqu'ici parce que c'est trop loin. Donc ici, on va les commander, on va se déplacer pour les acheter, mais ils arrivent au compte-gouttes. Tandis que la Nouvelle-France, elle est connectée au réseau diplomatique et commercial autochtone à travers les Grands Lacs. Donc, il est plus facile de faire venir des captifs autochtones pour les réduire en esclavage ici, mais avec la mentalité de plantation de l'esclave-objet dont le statut se transfère de génération en génération. Donc, les Français s'installent, se connectent au réseau autochtone, mais ils importent la manière de vivre et de voir l'esclavage.
J'ai envie de te demander, Ali, à quel point, ben en fait, à quel moment on a une première trace législative de l'esclavage ici? Tu sais, à quel moment on a décidé qu'on définissait justement que les esclaves étaient des biens, on en a parlé un peu tantôt, donc n'ont pas de droits? Parce que ce que je remarquais à travers mes lectures dans les derniers jours, c'est que là, on donne des chiffres, mais c'est toujours approximatif parce qu'il y a un moment où on n'avait pas de trace de tout ça, là.
Absolument. Donc, les chiffres, effectivement, sont approximatifs. Et c'est une bonne question là parce que c'est encore débattu. C'est-à-dire que dès 1680, on a des traces où le gouverneur de la Nouvelle-France écrit au roi de France pour nous donner le droit d'importer des personnes pour les réduire en esclavage. Mais comme je vous dis, on est loin des réseaux, donc ce n'est pas évident de faire venir les bateaux ici. La première trace législative, c'est en 1709, l'ordonnance de l'intendant Rodeau du 13 avril, qui stipule que tous les esclaves noirs et autochtones qui ont été achetés vont être maintenus en esclavage. Donc, c'est la première trace législative. Il y en a une autre en 1736 par l'intendant Hocquart qui stipule que si on veut affranchir une personne en esclavage, il faut le faire devant un notaire. Et ce qui est particulier, c'est que l'esclavage commence à disparaître ici à la fin du 18e siècle, notamment parce qu'un juge, le juge James Monk à Montréal, réalise qu'il n'y a pas de loi en lien avec l'esclavage ici. Et donc, on va revenir vers les intendants, c'est-à-dire, hey, regardez, l'intendant Hocquart, l'intendant Rodeau, ils ont produit des ordonnances, donc il y a une base législative, non? Puis,
C'est-tu de là que vient le code noir?
Non, le Code noir a été publié avant 1685 pour les Antilles françaises, un autre qui a été publié en 1724 pour la Louisiane, un autre parce que c'était des codes noirs qui étaient localisés. Le Code noir n'était pas appliqué ici. Les
OK.
gens avaient à l'esprit le code noir, mais ce n'était pas appliqué ici parce qu'il devait être écrit pour des lieux en tant que tels. C'était régionalisé. Et donc, ici, il n'y avait pas de loi formelle. Et la question qu'on pose, en fait, c'est est-ce que l'intendant Rodeau avait le pouvoir de légiférer sur une chose comme l'esclavage? C'est comme de vouloir inventer une nouvelle peine de mort, dire, bon, ben écoute, t'as volé de quoi? Ben, on va te mettre dans une boîte, on va mettre le feu, admettons. L'intendant n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, il y a un certain pouvoir, mais il aurait outrepassé ses pouvoirs en publiant une ordonnance donnant un cadre légal à l'esclavage ici. Et c'est ce qui est reproché d'un point de vue législatif à Rodeau. Et donc, est-ce que l'esclavage était légal ou pas? Eh bien, les juges, à la fin du 18e siècle, ont décidé que c'était un esclavage de fait, d'habitude, mais qu'il y avait un vide juridique. Et c'est ça qui va contribuer à la fin de l'esclavage ici.
D'autres trucs factuels. En 1911, il y avait une vague d'immigration noire qui provenait de l'Oklahoma. Et il y a des Canadiens qui ont mis de la pression sur le gouvernement de l'époque. C'était Wilfrid Laurier qui était là. Et on a passé une loi pour empêcher l'immigration noire. Et on payait même des médecins pour refuser des noirs pour diverses raisons. C'était si tu réussissais à refuser un noir en disant ben regardez, cette femme-là est enceinte, donc on peut pas l'accueillir chez nous. Ben, le médecin donne, il recevait 5$ de la part du gouvernement, qui était une petite fortune à l'époque.
Ben, voyons donc.
Juste pour refuser la candidature d'immigrants légaux.
Absolument, parce qu'au début du 20e siècle, les chefs d'immigration sont hiérarchisés. C'est-à-dire qu'on veut faire d'abord venir des Européens de l'Ouest, ensuite des Européens de l'Est, des Européens du Sud, puis bon, vous comprenez qu'il y a une hiérarchie, puis on descend, puis c'est qui est dans le fond de la pyramide, vous le savez déjà, c'est qui. Et donc, on ne veut pas avoir l'immigration noire ici, et on ne veut pas passer de loi comme on a fait pour empêcher l'immigration indienne et un peu plus tard l'immigration asiatique. Donc, parce qu'il y a un bon électorat noir, donc on instaure des mesures pour juguler l'immigration noire ici. Donc, on va effectivement commencer par des tests médicaux. Et on va payer les médecins 5$ par dossier refusé. Et les gens sont refusés, comme tu l'as dit, parce que la personne est enceinte, parce qu'elle est myope, parce qu'elle a des varices. Donc, c'est des choses qu'on
a
vues.
Mon Dieu Seigneur!
Mais on va aller plus loin encore. On va demander aux compagnies de chemin de fer d'augmenter le prix de billets de train. Pour les personnes noires, va passer de 20$ à 200$. On va même payer des leaders communautaires aux États-Unis, comme des pasteurs ou des journalistes, pour convaincre les Noirs de ne pas immigrer ici. Mais, par exemple, on va quand même les faire entrer pour du cheap labor. Donc, on va en faire entrer quelques-uns pour travailler dans les usines ou notamment pour travailler comme porteurs sur les chemins de fer. Hein, les gens qui sont dans les wagons-lits, qui font les lits, qui servent les repas, qui cirent les chaussures, etc.
Tu sais, Audrey, à quel point j'aime les vétérans,
ouais.
J'aime les militaires. On parle souvent du 11 novembre, puis je pense qu'une journée pour eux, c'est pas assez. Il faut se souvenir de 365 jours par année. À la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des Noirs qui ont été envoyés au front, qui se sont battus avec leurs frères d'armes qui étaient blancs. Et quand ils sont revenus ici, ne serait-ce qu'en Amérique, ben, ils s'assoyaient au restaurant en tenue militaire. Après la guerre, là. On a gagné la guerre, s'assoyez ici en tenue militaire et il n'y a pas de serveur ou serveuse qui allait voir ces gens-là. Alors qu'eux se sont battus pour leur pays, ils ont risqué leur vie.
C'est capoté. C'est fou, là, parce
que... Ça
fait
pas si longtemps que ça.
Non, mais c'est ça. Puis en passant, on était avec Ali Ndiaye, qui alias Webster, pour les gens qui le connaissent, qui est historien, qui est conférencier, qui est rappeur aussi. T'as quand même une carrière musicale derrière la cravate. Pour nous parler du mois des Noirs, puis j'ai pas le choix de te dire, Ali, que je ressens un malaise là, ce matin, parce que, un, je me rends compte que j'apprends plein de choses que j'avais pas appris pendant mon parcours scolaire. Puis deux, j'ai de la misère, on dirait, à avaler la pilule, fait que je peux même pas imaginer comment des gens qui portent ce bagage-là encore aujourd'hui font pour pas avoir le petit goût amer en dedans, je vais le dire comme ça. J'ai le goût qu'on parle de ségrégation raciale. On a beaucoup entendu parler, évidemment, du côté américain. Comment ça se traduisait ici?
Oui, donc effectivement, la ségrégation, on l'associe toujours aux États-Unis, mais il y en a eu ici aussi. Pour ce qui est des Noirs, c'était pas nécessairement dans les lois, mais dans les pratiques. C'est-à-dire que des hôtels les reçoivent, d'autres hôtels ne les reçoivent pas. Comme, admettons, le château Frontenac. Jusque dans les années 1940, le château Frontenac refuse beaucoup de Noirs. En 1907, refuse l'intellectuel Benito Sylvain. En 1932, refuse la grande chanteuse Marian Anderson, qui est afro-américaine, qui va dormir au Clarendon, mais qui va chanter au château Frontenac. Dans les années 1940, refuse, ou du moins... accepte le docteur George D. Cannon, qui est afro-américain, et sa femme, Lillian Mosley, mais on leur interdit de manger dans l'aire commune, dans l'aire de restauration, et donc eux vont aller en cours. Les salles de spectacle, au début du 20e siècle, les Blancs s'assoient par terre et les Noirs s'assoient au balcon, comme au théâtre Lowe's à Montréal. Et le balcon, on appelait ça la cage à singes.
Mon Dieu!
Et à Windsor, en Ontario, on appelle ça the crow's nest, le nid à corbeau. Et donc, pour les Noirs, il n'y a pas de lois ségrégationnistes, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle les lois Jim Crow, ce qui rend difficile la lutte pour le mouvement des droits civiques, parce que quand tu as une loi, tu as une prise conceptuelle. Tu peux pointer du doigt cette loi-là, puis dire, écoute ça, il faut changer cette loi-là, il faut l'abroger, mais quand tu n'as pas de loi, tu te bats contre des attitudes, contre des pratiques, et tu as le fardeau de la preuve à prouver devant les tribunaux que tu as subi des discriminations devant des juges qui très souvent trouvent ces attitudes-là normales. Mais pour d'autres communautés au Canada, on aura des lois discriminatoires. comme, admettons, la loi sur les Indiens de 1876. En 1895, on va passer une loi pour retirer le droit de vote aux Chinois. Les droits de vote avaient, les Chinois avaient le droit de vote ici jusqu'en 1895. On leur retire jusqu'en 1947. En 1923, on va passer une loi pour empêcher l'immigration chinoise. Donc, pour d'autres communautés, il y a des lois spécifiques, mais pour les Noirs, il n'y a pas de loi. Et donc, les gens doivent se battre pied par pied, hein, pouce par
Compte du
pouce, mètre
vent,
par
mais
mètre.
oui.
Exact. Et donc, ce sont des phénomènes qui ont existé ici aussi.
Quelle est la place de la culture québécoise? Quelle est la place des Noirs dans la culture québécoise? En quoi les Noirs ont contribué à cette culture-là, Webster?
Oui, ben, de par leur présence, c'est-à-dire que déjà, tu sais, on parle beaucoup de musique.
Ouais.
Dès les années 1700, on va retrouver des musiciens noirs, comme Loken qui s'enfuit et qui s'enfuit avec son violon, tu sais, parce qu'il était un très bon joueur. Au 19e siècle, on a des images, des seules images de personnes noires qu'on a ici au début des années 1800 sont en train d'animer une fête au château Saint-Louis. Et donc, il y a cet aspect musical-là jusqu'au 20e siècle, jusqu'au hip-hop d'aujourd'hui, hein? Jusqu'au 21e siècle même, le soul, on pense à Boule Noire. Mais aussi, tu parlais de l'aspect militaire. Il y aura des Noirs dans nos armées ici au 19e et 20e siècle. Même pendant la bataille des plaines d'Abraham, il y aura en 1759, il y aura au moins 33 Noirs dans l'armée de Montcalm.
Ah ouais, OK.
Ouais, qui étaient probablement comme plus en soutien logistique, mais quand même qui sont présents. Donc, il y a une grande et forte histoire militaire noire au Québec et au Canada. Et tu vois, à la Première Guerre mondiale, il y a un bataillon noir qui a été créé, qui s'appelle le bataillon numéro 2 de construction, un bataillon ségrégué, parce qu'on ne voulait pas les intégrer à l'armée. L'armée ordinaire blanche. Donc, on a fait un bataillon ségrégué, mais avant de faire ce bataillon-là, on voulait les envoyer dans le Royal 22e Régiment. Donc, on a failli avoir finalement un régiment noir et québécois, canadien, français.
J'ai envie de terminer en te demandant, Ali, parce que là, on se parle dans le contexte du mois des Noirs, à quel point l'histoire de l'esclavage, l'histoire des Noirs a encore un impact aujourd'hui, selon toi?
Oui, donc pour le mois de l'histoire des Noirs, c'est effectivement important de se rappeler cette présence et cet impact-là. C'est-à-dire qu'il y a une présence noire ici depuis 400 ans. Et tu sais, moi, toute ma vie, on m'a demandé d'où je viens, tu sais. Puis je dis, je viens de Limoilou,
Je
puis
n'ai
les gens rigolent.
sept.
Exact. Donc, ça nous permet de comprendre finalement cette présence-là. Et quand on parle de racisme systémique, il faut comprendre l'histoire de l'esclavage, il faut comprendre l'histoire de ces gens qu'on a marginalisés des sphères de pouvoir, des sphères économiques, et que finalement ont vécu dans les marges. C'est en comprenant cette histoire-là qu'on peut comprendre le présent aussi, et finalement d'avoir une discussion plus posée et plus nuancée sur nos enjeux sociaux aujourd'hui.
Ouais, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a pris le mois de février?
Oui, parce qu'au début, c'était la semaine de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et le mois de février, la date de naissance d'Abraham Lincoln et de Frederick Douglass.
Ah,
Euh,
voilà.
donc, euh, c'est, et au Canada, on s'est attaché à ce moment-là parce qu'aux États-Unis, ça se vivait déjà. C'est devenu une semaine, ensuite un mois. Donc, c'est un moment en Amérique du Nord où est-ce qu'on peut parler du mois de l'histoire des Noirs ensemble. Et c'est une histoire qui est transfrontalière aussi. Tu sais, des gens d'ici traversent là-bas, les gens de là-bas traversent ici. Donc, c'est une histoire qui ne s'arrête pas aux frontières. Tu sais.
Exact. Est-ce que tu fais encore tes conférences? Est-ce que tu fais encore tes tours guidés de la ville de Québec, dans le Vieux-Québec?
Oui, je donne toujours les tours guidés l'été,
Ouais.
donc environ mai-juin jusqu'à l'automne. Et les conférences, j'en donne encore beaucoup. Je te dirais que là, moi, de l'histoire des Noirs, je suis à deux, trois conférences par jour, là.
Oh mon Dieu!
Puis où est-ce qu'on peut s'informer pour justement avoir ces visites guidées-là avec toi?
Oui, donc il y a mon site internet websterls.ca, websterlimoilousters.ca, ou encore le site internet de mes visites guidées, québechistoriextour.ca. Et si vous me mettez sur Google, là, ça va sortir vite fait.
Ali Ndiaye, alias Webster, c'est toujours un plaisir de te jaser puis d'entendre parler de toutes les histoires que tu as à nous raconter. C'est toujours franchement intéressant. On a l'impression d'être plus intelligent après tes conférences.
Hey, oui, mon Dieu!
Ben, merci. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment apprécié.
Fait plaisir. Merci beaucoup, Webster.
Bonne journée.
Merci à vous. À plus. Bye.
Ouais. Chaque fois que tu sais que je suis avec quelqu'un puis on parle justement de l'histoire des Noirs, les choses qui se sont passées au Québec et tout ça, il y a tout le temps des gens qui vont m'écrire puis je sais que ça va rentrer, que ce soit présentement, j'ai pas accès à vos textos, mais peut-être plus tard, quand ils vont à la réécoute. Yann, pourquoi je me sens coupable? Mais vous n'avez pas à vous sentir coupable.
Moi, je suis un grand malaise pour être vraiment.
Mais vous n'avez pas à vous sentir coupable. Vous n'êtes pas responsable de ça. Puis si vous avez écouté l'entrevue au grand complet, puis vous pouvez raconter cette histoire-là à d'autres personnes, vous allez faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème qui a été créé à l'époque.
Mais je pense que ce malaise-là est normal aussi, Yann, dans la mesure où, comme ces communautés-là traînent encore ce bagage-là, ben, même s'ils ne l'ont pas vécu directement, ben, à entendre ces histoires-là, je traîne aussi cette culpabilité-là. Comprends-tu ce que je veux dire? Dans mesure où je pense... Je dis je ressens pas de culpabilité parce que je pense que tu es responsable de ce que tu fais dans le moment où tu es sur Terre et tu es vivant et présent. Mais je ressens un gros malaise. Puis je vais vraiment... Je vais être transparente avec toi. Là, quand on a booké cette entrevue-là, puis ce matin, je lisais encore, puis je préparais, puis tu veux être le moindrement éduqué possible pour diriger, pour poser tes questions. Tu sais, on dirait que j'avais peur de piler sur des œufs, j'avais peur de ne pas poser les bonnes questions, j'avais peur, par mon manque d'éducation à ce niveau-là, de mettre les pieds dans les plats, tu sais. Puis je pense qu'elle est là, notre responsabilité. Tu sais, on parle du mois des Noirs, mais moi, je me suis déjà fait dire, « Hey, Audrey, ta seule responsabilité en ce moment, là, comme citoyenne et comme individu vivant, là, c'est de t'informer. » C'est d'éduquer, c'est de lire puis de comprendre ce qui s'est passé puis de t'intéresser à l'histoire.
Ouais,
c'est la seule affaire que
t'as
à faire.
Mais tu sais, moi, je me souviens de mes cours au secondaire. Tu sais, on avait des... au centre-ville de Québec, on avait des amis autochtones qui étaient avec nous dans les cours au secondaire. Puis, ils entendaient parler de ce que les hommes blancs avaient fait à leur communauté. J'étais dans la classe, ils étaient à côté de nous autres, puis je me sentais coupable. Puis, à un moment donné, c'est Conrad Sioui qui était chef... ici à Wendake, qui m'a dit, Yann, vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, c'était l'époque. Aujourd'hui, ce dont vous êtes responsable, c'est d'acquérir des connaissances qui vont faire en sorte que ce genre d'histoire-là n'arrivera plus jamais. On a un devoir de se souvenir, mais si on peut élargir notre champ de connaissances puis après ça, les partager aux autres, ce sera déjà ça. Puis ça, Conrad Sioui, c'est un membre des Premières Nations. Il avait déjà écrit une lettre aussi à ses frères autochtones, aux jeunes, surtout la nouvelle génération, qui sont bien fâchés de ce que l'homme blanc a fait. Il avait dit, gardez-vous une petite... Je la résume très rapidement, là. Il avait dit, gardez-vous une petite gêne. Parce que vous ne l'avez jamais vécu, ce temps-là. Nous autres, on l'a vécu.
C'est ça.
Mon père l'a vécu.
De ne pas t'approprier non plus l'histoire. Je trouve ça intéressant.
Conrad Sioui m'avait fait voir ce que je suis en train de t'expliquer tout à l'heure, c'est qu'on a un devoir d'apprendre, on a un devoir de se souvenir, puis on a un devoir d'enseigner par la suite. Mais de s'en vouloir de ce qui s'est passé dans les années 1600, quand Samuel de Champlain est arrivé ici, c'est un non-sens, mais je comprends le réflexe. Mais on n'a pas à s'en vouloir pour ça. On n'était pas là. On n'est pas responsable.
Ah non, t'as raison. Mais tu sais, en même temps, là, tu parles des communautés autochtones, puis ça me fait penser... tu sais, moi, j'ai de la famille sur la Côte-Nord. Je viens de la Côte-Nord, puis la communauté Innu qu'il y a dans le coin de Sept-Îles, de ce que j'entends, parce que là, maintenant, je suis ici, mais il y a encore une certaine rogne par rapport à certains aspects de l'histoire. Il y a encore... ça se fait encore sentir aujourd'hui comme si ça se transmettait, cette frustration-là, de génération en génération. Ce que je peux comprendre d'une certaine façon, là. Mais je pense que c'est ce qui ajoute peut-être au malaise que je vais le prendre sur moi, mais que moi, je peux ressentir ou que les gens peuvent ressentir par rapport aux communautés autochtones ou aux communautés noires quand on parle d'esclavagisme puis de tout ce qu'on vient de discuter finalement avec Ali Ndiaye. Mais je sais pas, c'est comme tu peux pas t'empêcher de le ressentir. T'as raison, par exemple, là, notre bout, le seul bout qu'on a à faire, c'est de s'éduquer, mais c'est comme si tu te dis, Colibine, il me semble que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas logique.
Dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas logique. À l'époque, là,
ça l'était, t'as raison.
Ça l'était pour eux autres dans leur petite tête de noix, là.
T'as raison. Je sais pas, c'est peut-être... tu vois, il y a une affaire, puis encore là, j'ai peut-être l'air niaiseuse d'avouer ça de même, là, mais moi, il y a certains films historiques ou certains documentaires qu'on nous a montrés bon, à l'école que je peux pas regarder pour le plaisir aujourd'hui, même si j'ai envie de m'éduquer. Je préférerais aller lire que de regarder ça parce que des fois, c'est super bien fait. Puis les images, la façon que l'histoire est transmise, ça me brise le cœur. Mon Dieu, je ressens un poids en dedans de me dire que tabarnouche, il y a des gens qui ont vécu l'horreur, là. Puis encore une fois, je sais qu'on peut, on peut rien apporter aujourd'hui, là. Mais je sais pas, j'ai vraiment un gros malaise.
Puis en même temps, c'est le fun de jaser avec Webster parce qu'il a poussé ses recherches très loin. Il a étudié en histoire, puis il a poussé ses recherches très loin. Mais quand tu vas dans des livres d'histoire, tu regardes ça, tu te dis, OK, t'as peu, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après ça, tu jases avec des vieux historiens qui disent, non, t'as peu.
Parce
que là, cette histoire-là a été écrite par les conquérants.
Hey, t'as un point, là, Yann, qui est tellement intéressant parce que là, tu parles des Noirs, mais je vais te parler encore une fois de Wendake puis des communautés autochtones ici.
L'histoire a été écrite par les conquérants. Ça veut dire que si tu avais posé la question de l'autre côté, puis après ça, tu essaies de mettre ça au centre, là, c'est-à-dire d'en prendre, d'en laisser chacun. Bien, tu aurais peut-être plus la vérité dans le centre que si tu fais affaire avec ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite.
Je vous invite, si jamais ça vous tente, là, puis c'est vraiment trippant comme expérience en passant, là, Unois Lumina, dans le coin de Wendake, Steve Gros-Louis qui est derrière ce projet-là, puis Steve Gros-Louis est un acteur très, très important là, à Wendake, là, puis j'ai jasé plusieurs fois avec lui. C'est une personne que j'adore vraiment. Puis il m'expliquait ça quand on a fait la visite ensemble parce que j'ai eu la chance. Parce que quand vous faites Unois Lumina, c'est un parcours lumineux, en fait, qui se fait de soir. C'est magique. Ça se fait autant l'hiver que l'été. Puis t'en apprends sur la communauté autochtone. Puis c'est fou tout ce que t'apprends parce que justement, il y a des affaires qu'il n'y a pas dans les livres d'histoire. Puis Steve m'expliquait, moi j'ai eu la chance de le faire avec lui. Fait qu'il m'expliquait toute la pensée derrière les tableaux, le processus créatif, puis pourquoi ils ont choisi de mettre certains pans de l'histoire, tu sais, qu'on connaît pas, ou puis c'est un peu le point qui m'apportait. Ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est pas notre bout de l'histoire.
Ben, c'est écrit par les conquérants.
C'est la perception, effectivement, des conquérants.
Exact.
Fait qu'il manque beaucoup d'informations.
Le plus beau tableau que tu as vu en Unois Lumina, est-ce que tu t'en rappelles?
Ben moi, il y en a deux qui m'ont vraiment marqué.
Ouais.
Il y a le dernier. Le dernier où il y a les chants, puis où on a vraiment comme ils ont créé un ciel d'étoiles, puis on entend les chants de la fille, en fait, de Steve Gros-Louis. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Puis il y en a un autre qui était projeté sur, je pense que c'est le deuxième dans l'exposition, si je me trompe pas, sur les roches, là, sur l'espèce de mur de roche, je vais le dire de même, là, dans la nature. Là. Ça, c'est les deux, moi, qui m'ont...
Puis là, les gens sortent de leur maison?
Oui.
C'est ça, là? OK. Moi, ma préférée, là, c'est le guerrier.
Oui,
le guerrier
je me souviens.
Qui est seul et qui danse. Je pense que c'est le fils à Steve ou Steve, là, la représentation. Mais tout ça, mais seul-là, je me suis dit, c'est tellement génial qu'il a fait faire ça. Tu sais.
Ah, c'est un partage de culture
tout
exceptionnel.
Tout est noir. Ce n'est fait qu'avec des petites lumières. Puis tu vois un guerrier danser.
C'est beau, là.
C'est vraiment
t'as
nice.
Raison.
Quand il fait beau puis il fait pas trop frais, t'allais faire un tour là. Sur une première date, vous allez se carrer.
Ah, puis avec les enfants aussi en famille, là, même si les enfants ne comprennent pas nécessairement visuellement,
mes gars,
là, c'est capoté. Là.
Ouais. Mes gars ont adoré, puis mais c'est ça. Si tu vas là pour une première date, là, tu scores le premier soir.
Ah, assurément.
C'est comme le Wayne Gretzky de la première date. OK, 11h08, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. On revient, les amis.